des femmes,
des hommes,
des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs et bienvenue pour cette nouvelle émission de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, je suis avec Marc Châtelain et on va parler d'Europe avec Marc, puisque Marc, vous êtes directeur de la Maison de l'Europe. Mais parlez-vous d'abord de vous, Marc.
Alors, je suis pas directeur, je suis président, mais c'est
président,
pas grave, c'est juste un détail.
Vous êtes président de la Maison de l'Europe.
Voilà. Oui. J'ai 66 ans, je suis jeune retraité et j'ai fait une carrière professionnelle dans les eaux et forêts, pour employer un vieux terme qui est plus usité mais que j'aime bien. Et en gros, donc, j'ai été technicien forestier, j'ai travaillé pour le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, j'ai bossé un petit peu en Afrique quand j'étais jeune salarié en coopération.
Et est-ce que vous faites un lien avec aujourd'hui ce que vous faites entre votre carrière passée ?
Alors, je fais, oui, un lien assez évident entre ma carrière et mes activités de président de cette Maison de l'Europe de l'Ain. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en fonction, il m'est arrivé assez souvent d'utiliser des politiques européennes ou des crédits européens. Et je me suis assez vite aperçu qu'en fait, les gens n'y comprenaient pas grand-chose et que la plupart du temps, ils ignoraient l'existence de ce que l'Europe apporte dans notre vie quotidienne et dans des pratiques en milieu rural, par exemple, ou forestier. Et ça m'a un peu interpellé et je me suis dit que c'était intéressant d'expliquer au public comment ça fonctionnait concrètement sur des choses, des concepts assez simples. Voilà.
Et donc ça, c'est la finalité de la Maison de l'Europe.
Alors la Maison de l'Europe, alors le nom exact, c'est Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain. Voilà, c'est ça. Nous, notre credo, c'est effectivement d'essayer d'expliquer l'Europe de façon concrète au grand public, partant du principe que c'est un sujet mal connu, un peu brumeux, dont on parle surtout au moment des élections, mais guerre entre-temps. Et donc ça, c'est premier thème, c'est l'explication par des tas de moyens. Je pourrais un peu le détailler si tu veux, mais ce n'est pas forcément là la place.
Oui, parce que vous avez pignon sur rue à Radio B.
Voilà, voilà, c'est ça. Donc on fait une émission sur Radio B, on détaille ça, donc on ne va pas faire de redites. Et alors le deuxième axe, et on a un salarié qui est mis à disposition dans nos locaux qui fait ça vraiment à merveille, c'est de faire bouger les jeunes. Via des volontariats européens notamment ou des Erasmus, à la fois faire partir des jeunes Français vers les autres pays d'Europe au sens large et accueillir des jeunes Européens aussi chez nous.
Donc ça ouvre la jeunesse vers l'Europe, mais peut-être même plus que l'Europe.
C'est plus large que l'Europe au sens de l'Union européenne, puisque on peut, on l'a pas fait encore pour l'instant, mais on peut accueillir des Moldaves, des gens qui sont un peu en périphérie de l'Europe. C'est assez large. Il y a même des pays qui sont pas européens, mais qui sont associés au programme Erasmus, en Afrique du Nord, en Amérique latine, etc. Il y a des formes d'associations, donc c'est plus large que ça. Et ce que je dis souvent, c'est que nous, on défend pas une Europe ethnique, au sens, je sais pas, le club chrétien dont on parle parfois. Pour nous, c'est pas ça l'Europe. C'est plutôt une Europe basée sur des valeurs et des valeurs qui actuellement nous semblent menacées de partout.
Donc, vous plaidez pour une ouverture d'esprit qui a à voir avec les droits humains.
C'est l'ouverture d'esprit. Alors, ça passe beaucoup par les jeunes. Via le voyage, via l'échange, c'est de les ouvrir sur d'autres cultures et d'autres pratiques. Et il nous semble qu'actuellement, c'est très important parce qu'on constate quand même autour de nous une dynamique de repli sur soi de la société qui est un petit peu générale. Et c'est aussi les ouvrir à ce que nous, on appelle les valeurs européennes, qui sont des valeurs universelles, en fait, mais qui sont menacées de partout. Qui sont, par exemple, la séparation des pouvoirs, la liberté de la presse, l'inclusivité auprès de tous les publics, etc., etc. C'est des valeurs comme ça.
Oui, parce qu'on se dit être français, on est français, mais être européen, c'est quelque chose de vague.
Alors pour nous,
du public.
Pour nous, c'est pas vague parce qu'on considère que l'Europe, c'est quand même un peu le foyer de ces valeurs uniques qui sont devenues ou qui devraient être universelles, mais qui le sont de moins en moins par les temps qui courent. Quand je parle, par exemple, de séparation des pouvoirs, de liberté de la presse, les pays qui sont quand même en tête des palmarès mondiaux actuellement, c'est essentiellement des pays européens. Ce n'est pas forcément des pays de l'Union européenne. On va trouver, par exemple, la Norvège ou la Suisse, souvent en tête des palmarès, mais c'est quand même des pays européens. Et ce qui est un peu triste à dire, c'est que ça se fait aussi par déclassement des autres pays. On voit qu'actuellement, les États-Unis dégringolent dans les classements internationaux. Ils nous donnent des leçons, ce qui est assez rageant. Hein. Mais en termes de liberté de la presse, par exemple, les États-Unis actuellement sont en train de perdre énormément de place.
Alors justement, là, vous parlez de l'Europe, pas comme d'un club fermé, et vous déplorez par exemple que d'autres pays comme les États-Unis donc, perdent aussi donc, cette capacité, cette liberté de la presse.
Bien sûr.
C'est-à-dire, pour vous, l'Europe, ça n'est pas une forteresse?
C'est pas une forteresse, c'est plutôt un territoire sur lequel on devrait en tout cas défendre fortement ses valeurs fondamentales. Hein. Et ça reste malgré tout un bastion, parce que quand on regarde les cartes mondiales actuellement, l'Europe, même si ses valeurs sont menacées, y compris dans les pays européens, reste au-dessus du panier hein, pour toutes ces valeurs. Prenez la liberté de la presse, par exemple, c'est indéniable.
Oui, la liberté de la presse qui est quand même menacée aussi en Europe actuellement.
Alors, c'est tout à fait exact, tu as tout à fait raison. Il y a des combats à mener à l'intérieur de l'Europe. Hein. On le voit même au sein de l'Union européenne, hein, vraiment le précaré. Le cas de la Hongrie, bon, tout le monde le connaît, hein, où il y a la séparation des pouvoirs est extrêmement malmenée. Mais il faut regarder aussi dans notre propre cours. Hein. En France, on est loin d'être exemplaire. On n'est pas les champions des valeurs fondamentales au sein de l'Europe. La France, elle a plutôt une position médiane. Mais en termes de liberté de la presse, en termes de droit de manifester, par exemple, on voit qu'il y a des grosses atteintes. Le combat, il est aussi au niveau de l'Europe.
Est-ce que vous êtes aussi des incitateurs? Parce qu'au moment du vote pour l'Europe, il y a peu d'électeurs qui se déplacent et souvent ceux qui se déplacent se déplacent vers les extrêmes. Qu'est-ce que vous en pensez?
On le déplore fortement et là aussi, les gens votent insuffisamment à toutes les élections, y compris les élections nationales, hein, même au niveau des élections municipales, on le voit. Hein. Mais au niveau européen, c'est particulièrement fort. Et effectivement, on essaye de convaincre notre public que l'Europe apporte des choses très concrètes et que le Parlement européen, les députés européens, ils ont un rôle fondamental à jouer. Hein. Moi, par exemple, je suis très vigilant sur toutes les questions environnementales de par ma carrière passée. Actuellement, les politiques européennes en matière d'environnement ont tendance à se détricoter, un peu dans le vent de ce qui se passe ailleurs, hein, aux États-Unis, ailleurs. Hein. Les sujets environnementaux ont tendance à être moins pris en compte aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et ça, pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que le Parlement européen, c'est effectivement des partis extrêmes qui tentent à être de plus en plus représentés parce que d'autres personnes ne votent pas. Quoi, et ne se rendent pas compte que c'est un niveau très important pour défendre ces valeurs.
Alors, la Maison de l'Europe, donc vous défendez des valeurs, vous êtes en résistance. Est-ce que vous en avez la possibilité? Comment cette structure existe-t-elle?
Alors, on est une association, loi de 1901, hein, donc on est une petite association. Par contre, notre force, c'est qu'on est quand même très connecté par un réseau national avec une union régionale qui est très efficace. Hein. Et alors, on a, en termes de fonctionnement, on bénéficie de l'appui de quelques collectivités et également de l'État en partie, mais on a également, depuis cette année, un concours important de la Commission européenne, ce qui nous permet notamment d'avoir un salarié mis à disposition, et ça, c'est important. Par contre, ce qui est important à dire, c'est que ce financement européen ne nous donne pas pour autant l'obligation d'être des porte-parole de la Commission européenne. Donc, on n'est pas tenu à un discours institutionnel. On a droit à notre regard critique, d'autant plus que pour nous, le sens critique, la liberté de parole, ça fait partie des valeurs qu'on défend. Donc, on ne va pas se priver de les utiliser quand on l'estime nécessaire.
Est-ce que vous sentez résistant en ce moment ?
Oui, je dirais presque ça, parce qu'en ce moment, les temps sont durs. Les temps sont durs, les situations politiques se durcissent partout, chez nous, au niveau européen, au niveau mondial, on le voit très bien. Hein. Les valeurs fondamentales dont on parlait, partage des pouvoirs, liberté de la presse, elles sont menacées partout. Tout le monde le voit, les standards baissent. Hein. Je crois qu'en termes de standards démocratiques, au niveau mondial, on en est revenu à ce qui existait avant la chute du rideau de fer. On a beaucoup régressé depuis quelques années, donc ça c'est quand même très très inquiétant. Donc oui, il y a une forme de combat actuellement. Hein. Et alors un autre combat, c'est que l'idée quand même quelque part de cette Union européenne qui est quand même une collaboration très étroite des peuples est menacée elle-même. Hein. On voit très bien qu'il y a des partis qui défendent l'explosion de ce concept hein, pour revenir à une Europe des nations, qui est une Europe qui est beaucoup plus sur des valeurs culturelles extrêmement conservatrices. Ce n'est pas l'idée qu'on défend.
Et est-ce que toutes ces différences, finalement, parce que l'Europe, on voit ça comme quelque chose d'homogène, mais il semble que ça ne le soit pas tant que ça, ça peut être également une richesse?
Bien sûr. D'ailleurs, la devise, c'est « unis dans la diversité hein. ». Il ne faut pas l'oublier, la devise de l'Union européenne. C'est l'idée qu'on a des valeurs qui transcendent les nationalités, hein, notamment sur toutes ces valeurs fondamentales de liberté. Mais ça ne dispense pas du tout des particularités de chaque pays. Hein. Moi, personnellement, je défends les valeurs européennes, mais je me sens profondément français, par exemple. Je suis très attaché à la laïcité, à des principes qui sont très français. Et ça ne m'empêche pas du tout. Pour moi, il n'y a aucune contradiction. Et quand on accueille nos volontaires européens, on a une jeune Allemande là, avec laquelle ça se passe extrêmement bien, on voit très bien les petites différences culturelles et le fait que ça empêche pas qu'on ait cette liberté aussi d'être différents entre nous.
Je suis venu vous voir donc à la Maison de l'Europe, j'avais l'impression de prendre un bain de jouvence.
C'est vrai qu'il y a une ambiance très juvénile, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Hein, et puis il y a cette idée d'ouverture, parce que bon, moi je suis un vieux retraité, mais je vis entouré par tous ces jeunes qui viennent un peu de tous les pays, là, qui passent, qui repassent, qui échangent beaucoup. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de dynamisme et une ouverture d'esprit qu'on aimerait bien voir partout par les temps qui courent. Quoi.
Alors, c'est votre espoir ?
Ah oui, j'ai de l'espoir, mais j'ai de l'espoir et de l'inquiétude. Quoi. J'ai de l'inquiétude parce que la situation internationale, européenne et française ne me convient pas actuellement. Et ça renforce pour moi la nécessité de se bagarrer pour sauver ces valeurs-là, qui me paraissent indispensables. J'ai un fils, hein, et je n'ai pas du tout envie qu'il grandisse dans une société totalitaire. Hein, et pour moi, c'est vraiment un combat, quoi.
Donc, entre espoir et inquiétude, la lutte, le combat.
Oui, c'est une forme de combat. Hein. C'est une forme de combat. Ouais.
Marc Châtelain, est-ce que vous auriez un dernier mot à rajouter ?
Non, c'est aussi que j'ai beaucoup d'espoir, parce qu'on voit quand même que tout n'est pas noir et qu'il y a plein d'initiatives partout qui s'expriment pour qu'on garde notre optimisme et notre capacité de nous battre pour défendre ces valeurs-là.
Nous sommes à Radio B, ça a une signification pour vous ?
Oui, c'est un concept qu'on aime beaucoup. On collabore avec cette radio, nous aussi. Cet après-midi, je viendrai enregistrer une émission avec mes collègues. Oui, on connaît bien les locaux. Alors, en plus, Radio B, outre les principes que la radio véhicule et qu'on apprécie beaucoup, les locaux ont été rénovés avec des fonds européens, par exemple. Donc ça, c'est important de le dire. C'est un bon exemple d'application locale des aides européennes.
Donc, vive l'Europe et vive Radio B, alors.
Tout à fait, absolument.
Marc Châtelain, à bientôt et bonne chance dans tous vos projets.
Eh bien, merci.